Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le 21 février et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette interview, je suis avec Linria. Salut Linria.
Bonjour Cyrus.
Et nous accueillons Simon Villiot.
Salut.
De Blam, c'est bien ça?
C'est ça, exactement.
Alors, quel est ton poste chez Blam?
Oula, je suis un des fondateurs de Blam et je suis chef de projet, chapote l'administratif, la relation avec BlackRock, notre distributeur, avec le fabricant.
On a un petit fil rouge pour détendre un petit peu l'atmosphère.
Ouais.
Pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Oula.
Je dirais presque
un dilemme, cinéma, parce que c'est...
Quand même,
je joue pas beaucoup à Cannes, en fait. Alors, c'est plutôt cinéma.
Ok.
C'est plutôt bière ou champagne?
Oh, bière.
Évidemment. Plutôt camping ou Martinez?
Oh, Martinez.
Ah ouais, on a les moyens chez Blam.
Non.
Plutôt off ou plutôt dodo?
À dodo.
Ah, c'est le premier qui nous le dit, quand même.
Raisonnable.
Et moi, je vis en famille avec les bébés et tout.
Ah ouais, donc c'est ça. Plutôt salon ou festival?
Festival.
Et plutôt pro ou perso?
Pro. Ouais. Du coup,
à la force des choses,
je ne peux pas changer.
Ok. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu Blam?
Eh ben, Blam, on est d'Annecy.
Ouais.
On est une équipe assez nombreuse puisque on est 6 dirigeants. Ça ne veut pas dire qu'on est tous salariés. On est 3 salariés. Mm-hmm. Quand on a monté la boîte, on était 14. Donc voilà, c'est vraiment une.
Vous étiez 14 au départ.
Au départ,
déjà plus que 6.
Non,
c'est
que tous ceux qui nous ont aidés à monter, ils sont pas restés aussi actifs dans l'aventure.
Ouais,
il y en a certains qui sont devenus plus actifs maintenant. Voilà, en fait, voilà, il y a ceux qui nous ont aidés au début, il y a ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé un moment et qui n'ont pas pu nous suivre après. Enfin voilà, c'est une aventure.
Ça, 14, ça sent la grande aventure,
ouais.
Avec une grande bande de potes.
Exactement, la grande bande de potes. Mais en fait, on était tous dans un café au Repère, au Café Ludique. On jouait tous ensemble. On venait animer pour l'As d'Or à Cannes. On connaît très très bien Bruno, Antoine, etc. Donc on connaissait
Bruno
quand même
Catala,
déjà.
Antoine Beaux-Arts,
exactement. Que, du coup, le côté professionnel du jeu, on connaissait. Quand on venait à l'As d'Or à Cannes, bah forcément, on était confronté à voir tous les éditeurs, etc. Donc, on n'est pas parti quand même comme ça, sans rien connaître. Et voilà. Et puis, on a sorti notre premier jeu, Celestia, parce que nous, au tout début, on se disait, bon, bah, si on arrive à vendre 3000 jeux en 3 ans, ça peut être pas mal, c'est cool. Et puis, bah, Celestia, il en est maintenant à plus de 100 000.
Ouais, j'avais en 3 ans. J'avais la question, je me demandais, parce que je sais que c'est un jeu qui fait tourner un peu la boutique, quoi.
Ah, bah, c'est le seul jeu qui fait tourner la boutique, hein. Ouais. Tous les autres jeux font pas du tout tourner la boutique. Au contraire, on a du coup un peu changé de fusil d'épaule dernièrement pour prendre moins de risques et sécuriser un peu plus les choses. Et voilà, nous, on n'est pas serein là. Enfin, là, les jeux de cette année, c'est un peu un moment pivot. Savoir si on s'est agrandi là. On est passé à 3 justement pour essayer de soutenir le développement. Mmh. Avec Thibaut, je reparlerai peut-être de l'équipe tout à l'heure, mais chargé d'événementiel. Mmh. Et voilà, c'est un peu notre année charnière. Soit on arrive à tenir le choc avec 3 salariés, à faire des prods avec de l'international, etc. Sinon, il va falloir voir les choses un peu autrement. Ça ne veut pas dire... et ce n'est pas forcément un mal si on peut sortir moins de jeux et être plus serein et avoir un peu plus de temps. C'est une bonne chose aussi, mais voilà, c'est une année qui va bien définir qu'est-ce que sera Blam dans les années à venir.
Alors tu dis donc du coup vous salariez 3 personnes cette année, vas-y parle-nous-en.
Il y a donc le dernier arrivé qui est Thibaut,
qui est quelqu'un que je connais, en fait, qui du coup animait effectivement ici à l'As d'Or, tout comme toi. Hein.
Voilà,
je t'avais déjà croisé en tant qu'animateur à l'époque. Et Thibaut, je le connais un peu plus.
C'est ça. Qui est notre chargé d'événementiel, qui fait le tour, un maximum le tour des boutiques en France.
Il n'est pas que chargé d'événementiel, du coup. Il est presque VRP, alors, non?
Ouais, c'est toujours un peu compliqué la position de chargé d'événementiel où nous on est que 3 et c'est le seul qui se déplace, donc forcément c'est le seul qui peut un peu aller voir les boutiques. Mmh. Mais c'est vrai que. C'est aussi important de faire jouer les gens que d'y aller 2 jours avant et d'aller voir les boutiques en fait, d'aller un peu partout présenter les nouveautés, faire jouer. C'est les boutiques, c'est ceux qui achètent nos jeux, donc il faut aussi leur parler autant qu'aux autant qu'aux joueurs en fait.
Ouais, c'est vos premiers clients en fait. Hein.
Exactement. Ouais. Et il faut mieux qu'une boutique croie en ton jeu que même 50 personnes sur un salon. Finalement, une boutique, c'est sur le long terme, c'est elle qui peut vraiment t'aider à te pousser. Ouais. Quand un jeu fonctionne moins bien, si tu as 4-5 boutiques qui quand même connaissent bien ton jeu et le supportent, ça te permet d'écouler ton stock. Donc c'est super important et c'était pas prévu comme ça quand il est arrivé. Hein. Quand il est arrivé, c'est notre chargé d'événementiel. C'est quelque chose que je faisais moi très très mal. Donc j'ai dit, moi je veux quelqu'un qui fait ça parce que je suis nul.
Tu viens de savoir reconnaître ses atouts, ses faiblesses.
Donc je le remercie tout le temps parce qu'il fait des choses que je n'aurais jamais fait. Il fait toujours mieux que nous. Donc en plus, il n'a pas trop la pression. donc tout va bien. Et voilà, ça s'est fait un peu tout seul. En plus, lui, pour des raisons perso, il est souvent sur Paris. Donc coup. Voilà, on a défini son boulot et puis il a vu les boutiques. Les choses bougent très vite dans le monde du jeu. BlackRock nous supporte sur beaucoup de choses, nous conseille d'une année sur l'autre. On n'est pas forcé, ils nous conseillent pas forcément les mêmes choses parce que tout va vite et ils nous ont dit voilà, allez voir les boutiques le plus possible quand vous êtes en vacances, quand machin. Ouais. Allez voir les boutiques. Ouais. Et du coup voilà, Thibaut fait ça très bien.
D'accord. Et du coup les deux autres salariés ?
Alors l'autre c'est Claude qui est directeur artistique, qui est game designer. C'est lui qui avec d'autres personnes de l'équipe qui du coup sont bien impliquées mais pas salariées s'occupent des protos, de la direction artistique, de faire toute la PAO, d'écrire les règles, enfin voilà, c'est celui qui met les mains dans le cambouis.
D'accord.
Et puis le troisième salarié, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est administratif, relations avec le fabricant, les budgets, les devis, le prévisionnel, voilà,
tous les trucs. L'administratif.
Voilà, tout ça.
Ça a l'air passionnant.
Je pensais pas, mais quand c'est ta boîte et quand c'est des projets auxquels tu crois, finalement, j'adore ça. Enfin, faire des tableaux et Excel pour être sûr que c'est rentable et machin truc. Voilà, moi, finalement, ça me convient bien. Donc,
mais c'est le principal, c'est déjà ça.
C'est ça.
Ok, d'accord. Du coup, ouais, Celestia, c'est le jeu par lequel vous avez démarré. Donc celui que tu dis qui se vend toujours bien. Ouais. C'est quoi si on met ça sur une courbe, les ventes c'est stable,
ça monte parce qu'on a la chance d'être très soutenu par les boutiques. On est très soutenu par BlackRock à l'international aussi beaucoup. On fait moitié-moitié en gros.
Ouais. Ah oui, quand même, je pensais pas.
Ouais, on est ça marche très très bien à l'international grâce à BlackRock. Ils ont une section export qui fait un super boulot là-dessus. Et puis aussi à la grande surface avec voilà, BlackRock a aussi du King Domino, du Blanc Manger Coco. On est un peu le jeu le plus compliqué possible, mais on en profite bien. On était à la Fnac aussi là sous Noël et on se rendait pas compte, même dans nous à Annecy, avec deux grosses boutiques, son Magic Bazar et Ludo Cortex, on disait ouais, enfin bon, à Annecy, il y a pas besoin. Et en fait, ben on a eu des échos de gens qui me disent ah ouais, je savais pas, j'ai vu ton jeu, etc. Donc on continue à grossir. Je pense que ça va être la dernière année là où on va vraiment grossir parce que maintenant on est un plan
sur Celestia, tu veux dire?
Ouais, sur Celestia. Ouais. On est dans toutes les boutiques, on est dans la GSS, à l'export, ben forcément ça va diminuer donc. Ouais, on est déjà à plus de 100 000. On a gagné le pion d'argent de l'UEJ.
On a encore jamais eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, c'est un prix qui a été créé donc par l'Union des éditeurs de jeux, qui se base en fait sur le nombre de ventes comme le disque d'or.
C'est ça, exactement. Comme le disque d'or, il y a plusieurs niveaux. Il y a le pion d'argent, le pion d'or, le pion de platine et le pion, j'en ai oublié,
diamant.
Voilà, le pion de diamant. Okay. Et voilà, on est au premier niveau.
Tu connais les nombres de ventes?
Ouais, parce que j'ai fait partie de la création un peu de ça. Ouais. On s'implique pas mal à l'UEJ. Donc le pion d'argent, le premier, c'est 100 000. Ouais. Donc on est tout pile, mais on y est. Il y a le pion d'or qui est 250 000. Après, c'est 500 000, 1 million. Et le pion de diamant, c'est 3 millions.
Bien. Voilà. Bientôt.
Pour l'instant, il n'y en a pas de pion de diamant parce qu'on essaie de limiter justement autour des années de ne pas prendre depuis la création des jeux, d'essayer de les tenir pour que ça crée une actualité, que des jeux arrivent dans ces niveaux-là, etc. Donc,
ok, merci pour cette petite info en passant. Et donc, oui, Celestia, il y a eu une extension.
Il y a deux extensions. On a sorti la deuxième à Essen cette année. Oui. On continue au plus possible à supporter le jeu. On est évidemment dans des réflexions de collector, de peut-être un deuxième jeu, des choses comme ça qui sont pour l'instant
Et je crois que ce qu'on n'a pas précisé, c'est une réédition, Celestia.
C'était une réédition de Clone 9,
qui était un jeu de
Aaron Weisblum, qui est américain, et qui avait bien marché, etc. Et il nous avait un peu donné les clés du jeu un peu comme ça, du oh, bah, moi vous savez pour moi il est mort le jeu, une fois qu'on lui a dit qu'on avait un vrai distributeur, on dit oui bah, je vous donne les droits au monde, il y a pas de souci, puis on fait peut-être
ouais. Maintenant on lui dit merci,
c'est ça,
on lui avait donné 1% des ventes
non, je pense qu'il est content à tout niveau, il adore les graphismes, ouais. etc. On a une liberté de travail avec lui qui nous laisse, il nous laisse faire, donc c'est cool, puis voilà, on se fait confiance. Là on a l'escape game qui va sortir à Annecy dans quelques mois, donc on développe l'univers de plein de petites manières différentes. On se force pas, on n'a pas envie de créer forcément un 2 pour créer un 2, si on trouvera, soit on fera développer un jeu pour, mais voilà, ça va pas être tiens un jeu il est cool, on met l'univers dedans. Les extensions sont faites comme ça. Au début, quand le jeu est sorti, on s'était dit pas d'extension, on n'a pas besoin, le jeu est hyper épuré, c'est très bien. Et puis, au bout d'un moment, en écoutant les joueurs qui disaient ah, pourquoi je ne peux pas jouer des cartes et aider le capitaine, on s'est dit ah, bah, peut-être qu'on peut trouver un truc, etc.
Puis après, ça, c'est l'auteur qui les a développés ou c'est
Non, c'est nous en interne.
Ouais, c'est vous. Okay.
C'est nous en interne. Il a validé, il a regardé, il a joué, mais c'est souvent des idées.
C'est son nom quand même qui est sur l'extension du coup.
Elle est dessus. C'est voilà.
Et lui, il touche des droits
bien
quand
sûr.
Même dessus.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et de façon, tout jeu, toute extension, c'est obligé qu'il soit accrédité. Une extension, surtout quand on a besoin du jeu de base, il n'y a pas de. C'est, on peut pas, et il a raison, enfin, c'est normal. La plupart des choses sont de lui, et c'est une petite carte en plus qu'on a rajoutée. Là, pour la deuxième extension, c'est une petite chaloupe qui permet de partir tout seul, donc du coup, plus le côté partir à l'aventure et d'arrêter d'aider les copains. Mais c'est des petits détails, le cœur du jeu, c'est toujours. C'est toujours un stop ou encore, je lance des dés, j'accompagne.
On va avancer un tout petit peu dans les productions du coup de Blam. Je vais m'arrêter rapidement sur Time Arena. Qu'est-ce que ça a donné du coup Time Arena ? Parce que c'est un jeu. Alors je me rappelle, moi je vous avais vu à PEL au moment
Nous
du proto.
Nous aussi, on se souvient bien.
à cette époque-là, vous aviez vraiment changé votre planning pour mettre ce jeu-là en avant, pour qu'il sorte pour Essen. Parce que vous teniez un truc, comme faut quand même le dire, vous tenez un truc avec Time Arena.
Eh ben, on y croyait vraiment. Beaucoup de monde y croyait. Vous avez aidé à ce qu'on y croit. les boutiques, on a fait des tournois avec les prototypes où les gens de Magic arrêtaient et venaient jouer au tournoi. Enfin voilà, ça marchait. Et c'est pas un méga flop, mais par rapport à l'investissement qu'on a mis, on en a fabriqué 10 000. On a vraiment fait beaucoup de. Sur les salons, on a fait des géants, on a fait des tournants, on a fait beaucoup de boîtes sur des lots, etc. Donc, parce qu'on y croyait à mort, et c'est un jeu qui a fait un peu pchit. C'est-à-dire que jusqu'au moment où il sortait, il avait une super hype. Enfin, nous, c'était la première fois qu'on avait un jeu où on en parlait avant la sortie, où on se souvient à Octogone, c'était Laetitia qui avait animé, qui nous a dit « C'est énorme, les gens ils font la queue, ils viennent rejouer dans le salon, enfin, ça va être top. » Et puis, voilà, il a fait un peu pchit. Pchit, on en a vendu 4000. C'est bien, mais là on est dans une phase à dire qu'est-ce qu'on va faire des 6000 restants.
Ah ouais, quand même, ouais.
Et comment on explique que ça ait fait ça vu l'engouement qu'il y a eu justement quand il est sorti ? Parce que moi je m'en souviens, j'étais à Ludinor l'année où il est sorti et c'est vrai que les gens attendaient pour jouer à Time Arena.
On a un peu du mal. Nous, ce qu'on se dit pas mal, c'est que c'est un peu un jeu expérience, c'est-à-dire que j'en fais une, deux, trois parties sur un salon, c'est cool, c'est mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'un jeu où je me stresse à mort comme ça chez moi ? On s'en rendait pas compte parce qu'on est dans notre méga bulle. Et que c'est un jeu hyper de niche, c'est du temps réel, il y a plein de joueurs qui n'aiment pas le temps réel, c'est un jeu d'affrontement, c'est un jeu de joueurs, même si on peut jouer en équipe, c'est un jeu d'affrontement. Et puis.
C'est le côté chronométré, je pense, qui a freiné.
Ouais, c'est ça qui peut faire peur.
C'est que, c'est vrai que la plupart des gens qui achètent des jeux à deux, je pense surtout aujourd'hui, ils vont y jouer en couple chez eux. Le côté affrontement, enfin, moi, ma femme, elle a détesté, quoi.
Non, mais c'est le jeu. Je pense que le problème, c'est que c'est un jeu à deux qui ne parle pas au couple.
C'est et un en jeu fait, à deux pour jouer entre joueurs type de Magic.
C'est ça, en jouant type de Magic, sauf que je pense que ceux qui jouent à Keyforge s'en rendent bien compte, déboulonner Magic ou même être à côté de Magic, c'est méga dur.
Est-ce que finalement il n'était pas. Je réfléchis en même temps que je pense avant le coup, parce que je ne m'étais jamais trop posé la question plus que ça. Cette analyse de dire c'est un jeu à deux, ça je l'avais déjà faite, mais est-ce que finalement il n'est pas trop simple pour une cible qui aurait peut-être pu être plutôt des joueurs de Magic et...
Je pense que les joueurs de Magic, nous on avait aussi pas mal ciblé, on avait fait même de la pub dans des magazines de jeux vidéo, des choses comme ça, en disant on peut choper ces gens-là, et en fait ils sont assez indéboulonnables, quoi. Quand tu joues à Magic, tu peux essayer un jeu, Une fois, deux fois, tu vas être cool, ton pote va l'acheter et puis c'est tout. Quand tu joues aux jeux vidéo...
Quand je dis joueur de Magic, attention, parce qu'effectivement, c'est quand même une population assez particulière qui est un peu dans son monde. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a un rayon autour de ça.
Ouais, mais je pense que nous, dans notre rayon...
qui affectionne ce genre de jeu.
Je pense que nous, dans notre milieu entre nous, on a aimé quasi tous Magic et on est un peu tous frustrés de ne pas réussir à retrouver du Magic, etc. C'est aussi, je pense, pas mal pour ça que, par exemple, Keyforge marche bien, parce qu'en fait, moi, j'arrive à rejouer un jeu genre Magic, mais sans faire mes decks et y passer ma vie. Mais c'est très peu de gens. C'est voilà, ceux qui sont à ceux qui vont à Ludinor, ceux qui vont à quelques trucs, mais tu peux pas toucher le grand public. Des boutiques étaient vraiment accrochées, mais on avait fait des super offres avec BlackRock, avec voilà, et donc ils avaient de quoi faire, ils connaissaient le jeu et ils sont arrivés en disant mais je n'arrive pas à le vendre quoi. Donc
une idée qui a pas trouvé son public. Quoi.
Exactement, c'est une idée qui a pas trouvé son public. Peut-être les illustrations, peut-être je sais pas quoi, peut-être au tout début, les deux semaines de la sortie du jeu, l'application avait un tout petit souci, était pas méga précise, donc peut-être que ça, c'est peut-être plein de petites choses qui étaient pas prévisibles, mais qui font un tout, qui voilà, le public un peu plus compliqué à aller chercher que n'importe quel jeu, voilà. Okay.
On va pas, mais vous avez quand même sorti une extension.
On a quand même sorti donc deux extensions de deux personnages, parce que pour nous le jeu il est complet maintenant. Si ça avait cartonné, on en avait des, enfin Fabrice Lamouille en avait des tonnes d'extensions de personnages. Mais au moins,
Fabrice Lamouille qui est l'auteur.
Ouais, qui est l'auteur, exactement. Au moins, on a un jeu complet. Pour nous, on respecte un peu aussi notre promesse à Fabrice. BlackRock nous a suivis sur les extensions, ce qui n'était pas finalement la chose à faire, parce qu'on en a, on en a en stock trop et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais voilà, je pense que c'était important de le faire. Il y a aussi des fans qui sont très très contents d'avoir des extensions. On a travaillé de bonnes raisons.
Vous risquez de les solder, du coup, j'imagine. On voit pas mal d'opérations en ce moment là chez Philibert ou chez d'autres. On voit des éditeurs qui vident leur stock. Et
ça va forcément arriver. Pour l'instant, grâce aux extensions, on arrive encore à vendre le jeu, à le faire vivre, à en pouvoir envoyer des lots, à faire des choses comme ça. Donc ça nous permet de continuer à le faire vivre, continuer à faire parler du jeu comme aujourd'hui par exemple quoi. Sinon on n'en parlerait plus et puis c'est...
Non mais bon, enfin moi je maintiens que ça reste effectivement une expérience ludique qui est originale et qui est bien à côté de toute la production qu'on peut voir aujourd'hui. C'est bien de l'avoir tenté. Bon, voilà. C'est triste de voir le résultat.
C'est triste et ça fait être très compliqué. Hein. Enfin, là, au début de l'année dernière, quand on a commencé, le fabricant a nous envoyé les vraies factures et puis avoir les ventes. Il y a un moment où on était en train de se dire on ferme.
Ouais.
C'était même pas on arrête et puis on continue de vivre Celestia. C'était vraiment on ne peut pas payer, on ferme. Et ça a été un moment assez compliqué. Il fallait revoir les banques, leur expliquer. Donc voilà, on a réussi, on survit. Maintenant, on est bien, grâce aussi à notre fabricant qui nous soutient beaucoup, etc. Mais voilà, c'est là où on aurait pu être un peu serein et continuer à grossir, ou en tout cas même à trois, pouvoir dire on fait. Maintenant, on est un peu plus sur nos sous à vérifier.
Et est-ce que ce genre d'expérience, justement, du fait de se remettre en question, de se dire bah tiens, ça a raté. Ça vous fait faire aujourd'hui chez Blam des nouveaux choix, des nouvelles directions ?
Alors, des nouveaux choix, je ne suis pas sûr, parce qu'on restera à faire des jeux qu'on aime, qui racontent des histoires, qui sont immersifs de plein de manières différentes. Ça peut être parce qu'on fait du chronomètre, ça peut être parce qu'on a le matériel. Si on parle d'un prochain jeu, c'est Montmartre, c'est sur la peinture. On travaille aussi beaucoup avec des croquis, etc. Donc ça, nos choix, je pense, éditoriaux n'ont pas changé. Par contre, la manière dont on calcule nos coûts, avant, c'était ça coûte tant à facturer, si j'arrive en vendre machin, j'arrive à payer ma fabrication. Maintenant, non, on sort un jeu, on sait combien ça nous coûte d'illustration, combien ça nous coûte de com, combien ça nous coûte sur les salons, etc. Et mon prix de vente.
Les frais réels finalement.
Exactement.
Quoi.
On n'est plus en dire, mon premier tirage, il me sert à faire parler du jeu et j'en retirerai derrière parce qu'on sait que sur 5 jeux, il n'y a que 2 jeux où on a fait un retirage derrière. Donc.
C'est peut-être pour ça qu'il y a des éditeurs qui sont de plus en plus en rupture, parce qu'ils prennent peut-être moins de risques au début et puis finalement. Vaut mieux choisir d'être en rupture et d'en refaire après ?
Clairement, parce qu'un jeu qui marche pas, c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Si un jeu, nous on n'en a pas encore eu à ce point-là, mais un jeu où t'en vends 500 et que c'est fini, tu fais ça 3 fois et puis après tu peux plus éditer. Donc je pense que notamment les petits éditeurs vont être contraints. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'aujourd'hui il y a des gros éditeurs, sans mettre de hiérarchie ni de jugement ni rien, mais les gros éditeurs qui vont se permettre de dire j'en fabrique 3000, j'en fabrique 5000, puis j'ai du stock, je m'en fous, je les solderai, etc. Mm. Je pense qu'ils disent je m'en fous, mais c'est pas vraiment je m'en fous. Mais et en tout cas, sur le moment, ils y arrivent. Du coup, ils arrivent à tirer des prix de fabrication beaucoup plus faibles. Et les petits éditeurs qui peuvent pas, bah, ils vont peut-être en tirer 2000, 3000, et c'est tout. Du coup, des prix de fabrication plus élevés, du coup, les jeux plus forts, et du coup, les gros éditeurs vont pouvoir tirer leurs prix. Enfin, tout le monde va faire les prix normaux, mais les petits seront forcément plus chers. Et nous, bah, c'est le cas de Montmartre. On prend un risque, mais en se disant qu'on le travaille pour, dire qu'il va être un peu cher pour un jeu de cartes. On a fait des belles cartes tarot, on fait une boîte un peu pas luxe, mais qui parle à un public comme ça, pour pas que tu sois déçu quand tu ouvres ta boîte. Mais on calcule pour que faut pas être déçu, mais on peut pas se permettre de se dire il faut le vendre tant, parce que voilà, Montmartre, il faudrait le vendre à 15 euros. On est en train de tout faire pour le vendre à 15 euros, mais il y a des chances qu'il soit à 17, parce qu'on veut pas prendre plus de risques. Montmartre, en plus, qui est un projet très risqué, parce que c'est de la peinture, c'est Paris, c'est un graphisme un peu différent. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et on peut pas prendre de risques, quoi. Mmh. Parce que si c'est des prêts ou des billets de trésor, on n'en aura pas.
Alors parlons un peu justement de ces nouveaux projets. Qu'est-ce que tu présentes à Cannes ?
Donc à Cannes, on présente Chakra en avant-première. Mmh. On a réussi à en avoir suffisamment, donc on est super content. Mmh. Chakra, c'est un jeu zen. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Dans Chakra, on a chacun un petit personnage qui est représenté avec des zones où on va mettre des petites gemmes, ce qu'on appelle des énergies, qui reprennent les couleurs, les vraies couleurs des chakras, qui ont 7 couleurs différentes, qui sont associées à des pierres précieuses, à des choses comme ça. Okay. Et donc dans le jeu, en fait, c'est assez simple. On récupère des énergies sur un plateau central, on les met sur notre plateau individuel où il y a tous les chakras. On utilise des petits jetons pour les faire monter, les faire descendre, aligner nos chakras, c'est-à-dire mettre les bonnes couleurs dans les bons chakras. Et puis on tourne comme ça. Des fois, on va méditer quand il faut passer pour voir la valeur en point des chakras, pour reprendre notre inspiration et reprendre notre énergie. Et voilà, donc c'est un jeu zen. C'est intéressant, c'est qu'il y a un peu de bluff, parce qu'on sait ce que les joueurs connaissent comme chakra. Donc si je vois qu'ils connaissent chakra là, qu'il y va à fond, peut-être qu'il vaut beaucoup de points, donc je vais y aller. Peut-être qu'il bluffe. Enfin voilà. Et qu'on est vraiment très heureux, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est immersif, parce que c'est un jeu sur les chakras et on n'est pas en train de se foutre sur la gueule, c'est un jeu sur les chakras et on joue pour nous et on est zen et on se pique pas des choses, on va pas détruire le chakra de l'autre, etc. Non, on est zen, on a une petite interaction, mais c'est tout doux, le matériel est beau.
Je trouve vous avez en général une direction artistique qui est plutôt bien soignée, effectivement.
Assez onirique aussi, parce que un peu comme Celestia, finalement.
Ouais, on est vraiment sur quelque chose comme ça et ça nous parle bien, et puis ça s'adresse à un. Voilà, on ne sait pas, un jeu chakra où personne peut jouer, c'est un jeu sur les chakras où quelqu'un qui fait un peu de yoga, un peu de truc, va s'y retrouver et va aimer retrouver ce plaisir-là.
C'est un jeu qui est un peu dans la veine des Splendor, Azul, Majesty, un peu.
Exactement. Ouais. C'est du.
Ce type de jeu-là.
Ce qui est aussi super intéressant, c'est que c'est un jeu abstrait, mais pas tellement, en fait, parce qu'on a quand même nos chakras, on utilise plein de termes qui sont des vrais termes de là. Moi, ma femme est fait de l'Ayurveda, c'est de la médecine indienne, d'où qui est à côté du yoga, donc elle connaît très bien, elle a écrit plein de. Des choses dans les règles et tout, donc voilà, notre volonté, c'était que ça parle à ce public là et que ça parle aux joueurs, et voilà, donc
on est super. L'auteur du jeu,
alors l'auteur, c'est Luka Krešla, mais je sais pas très bien le prononcer. D'accord. Parce qu'il est croate et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de mettre
pas ce podcast,
et je pense qu'on aurait dû, quand on s'est vu à SN pour travailler sur le jeu, lui demander, et il aurait été très intelligent, et qui est magnifiquement illustré par Claire Conan, et c'est aussi une belle histoire, parce qu'en fait sur les illustrations du jeu, on a juste piqué son illustration sur internet pour faire le proto, faut que ce soit à peu près joli. Et puis, quand on a eu Claude, du coup, l'a contacté en disant voilà, on a vu ton truc, elle était toute contente. Et du coup, c'est elle qui a fait les autres personnages, qu'il y a 4 personnages dans le jeu, qui a fait tous les éléments. Donc, c'est vraiment. Ça nous est tombé un peu.
Une rencontre
comme ça.
Au hasard.
Exactement. Donc, on est super.
Et c'était le thème du jeu, c'était celui-là au départ ?
Oui, parce que.
Je vois que tu as l'air d'être bercé par le principe. Je me suis demandé du coup si c'était adapté.
Non, l'auteur de jeu, il est prof de yoga, il fait du reiki, etc. Il a voulu créer un jeu autour des chakras. Et du coup, c'était une des premières fois, je pense, qu'un jeu correspondait typiquement, où on n'a pas eu à changer une thématique, à changer de quelque chose pour coller. Il a fallu refaire un petit peu de mécanique avec l'auteur, comme
un
d'habitude.
Un peu de développement. Ouais.
Mais le cœur du jeu, il était là, quoi.
Ok, très bien. Donc ça, c'est pour 2-4 joueurs, non ?
2-4 joueurs, ça marche super bien. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, la première partie, quelque chose comme
ça. Très bien.
Qu'est-ce
que vous présentez d'autre ?
22 euros,
on n'a pas demandé 22 euros.
Ouais. On présente la Cannes Space Explorer, donc une localisation d'un jeu là qui était
porté sur Kickstarter, c'est pas ça ?
Qui a été avant porté sur Kickstarter. On ne va pas en parler trop longtemps. Et parce qu'on n'était pas au courant. tout simplement que l'éditeur anglais allait faire un Kickstarter.
Ah d'accord.
Ce qui est un peu dérangeant, mais bon, voilà.
Il y a pas de version française dans le Kickstarter, du coup.
Non, mais quand c'est un jeu expert geek dans un univers qu'on peut bien, ben il y en a qui savaient pas qu'on allait le localiser, puis qu'on allait le localiser moins cher évidemment. Donc on a fait ce qu'on peut, on a dû en on l'a su le jour du lancement du Kickstarter en fait. Mmh. Et du coup, on a dû vraiment le bon, je dis pas qu'on met fait des plans de com de fou et qu'on organise tout, mais on a dû quand même un moment dire OK, faut qu'on arrête de parler là de mettons à l'époque pendant deux semaines, faut qu'on parle de Space Explorer pour que les gens qui le veulent se disent non, j'attends la localisation Donc mais voilà, on adore le jeu, on adore les illustrations, là ça a été on l'a présenté à la presse et tout ça, il fait mouche. Mmh. C'est un super jeu de combo, un peu voilà, jeu expert en une demi-heure, jeu de cartes. On fait notre équipe avec des règles très simples, mais c'est les combos et les cartes qui donnent vraiment le relief au jeu. Et voilà, c'est vrai, on est très content de le faire parce que c'est pareil, ça nous change un peu de notre gamme. On n'est pas du tout sur le numérique, on est sur la course de l'espace dans les années 60. Mais on se raconte une histoire et c'est toujours ça qui est important pour nous. Et là, on est assez content.
Ouais, donc ça c'est un jeu de alors je vais essayer de te sauver, je sais pas, je pense pas, je pense que je vais me sacrifier pour toi.
Vu le nom, ouais,
de Yuri Zurab Shop.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Et c'est donc pour 2-4 joueurs aussi.
2 à 4 joueurs, ouais.
Et peut-être une demi-heure.
Ouais, à partir d'une demi-heure et puis
alors, du coup moins cher que sur Kickstarter.
Et 22€ aussi en fait comme chaque.
D'accord.
Du coup là on monte mon marque.
Il va il va sortir bientôt là, parce que Chakra est sorti.
Enfin, Chakra il est en avant-première à Cannes, il va sortir dans 2 ou 3 semaines. Mmh. Et puis Space Explorers, il est sur le bateau, il va arriver dans 3 mois, 2-3 mois, quelque chose comme
d'accord.
Ça. Voilà.
Ok, très bien.
Donc après, il y a Montmartre qu'on présente, un jeu simple, vraiment familial, de collection de poses de cartes. Avec la petite originalité du jeu, c'est qu'on a une double majorité pour vendre un tableau. En fait, soit il faut que j'aie plus de cartes simplement que tous les joueurs autour de la table, soit la plus grande valeur. Donc toutes les cartes sont intéressantes puisqu'on peut poser plus facilement des petites cartes.
D'accord.
Mais voilà, donc c'est un jeu de Florian Cyriex qui est illustré brillamment aussi par Jeanne Landart, parce qu'on a travaillé autour de Montmartre, des peintures du début du XXe siècle. Donc elle a dû refaire en fait quatre femmes qui posent dans 4 styles différents, du Picasso, du Moucha, du Modigliani et du croquis jusqu'à la version finale, parce qu'on a des cartes qui vont de 0 à 8 et le 0 c'est le croquis, le 8 c'est la version finale
de l'œuvre en fait.
Donc voilà, là-dessus on fait un vrai travail sur un jeu simple, d'essayer de ramener des choses, d'essayer de d'immerger les gens.
Pas une patte graphique quand même malgré tout important qui va permettre une certaine immersion, je comprends.
Ce qui complique aussi les choses, parce que du coup on a 8 illustrations par couleur mais qui doivent montrer la même chose, donc
Et puis c'est un coût aussi, l'air de rien, hein, parce que bon, on aurait pu mettre des chiffres de 1 à 8, c'est plus facile.
C'est ça, c'est un coût, on l'avait aussi bien anticipé dès le début avec elle, elle savait ce qu'on voulait faire, elle a prévu de travailler d'une certaine manière pour qu'elle puisse nous donner ce qu'il faut, mais même si ça n'a évidemment pas été aussi simple que ça.
Ok, très bien. Puis Terre 2, j'ai noté aussi. Vous sortez un jeu de rôle.
Oh, on l'a sorti l'année dernière.
Oui, pardon. Mais je suis un peu moins l'actualité. Ça m'a marqué, vous aviez sorti un jeu de rôle.
Ouais, ben, pour nous, le jeu de rôle, c'est la quintessence de ce qu'on aime faire. Enfin, immerger les jeux à fond, même si dans l'équipe, on n'en fait pas tous. Enfin, moi, le premier, j'en fais vraiment pas autant que je veux. Voire plus du tout. Mais pour nous, c'est ça qu'on aime faire, c'est l'immersion. Et puis en fait, dans ceux qui ont aidé au tout début de la société, il y avait plusieurs des auteurs de Terre 2 qui étaient là. Quand ils nous ont dit qu'ils voulaient l'auto-éditer, ils n'avaient pas les moyens de le faire.
D'accord.
Pour nous, c'était juste normal. On ne pouvait même pas leur dire qu'on ne le faisait pas, parce qu'ils faisaient partie de la société. On aime bien. Enfin, l'univers, c'est un univers dystopique qui est juste énormissime. C'est Terre 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la Révolution française. Donc il y a toujours le royaume de France, c'est pour ça que sur la couverture, si on fait attention, on voit la tour Eiffel en construction, mais avec des drapeaux aux fleurs de lys.
D'accord, parce que les drapeaux aux fleurs de lys,
voilà, et puis il y a quelques trucs de science-fiction, un peu, je vais pas dire sinon ils vont me taper, je sens que je vais dire des bêtises. Donc, mais voilà, de la magie, des choses comme ça, et puis voilà, on a sorti le premier livre avec 6 scénarios dedans, enfin on a essayé de travailler des choses aussi pour qu'ils sortent du lot. Après le jeu de rôle, c'est très compliqué.
Ouais, c'est particulier, c'est un domaine encore à part,
c'est un
ça
domaine...
a quand même marché ou...
Je sais pas. Non, je sais pas, parce que c'est quoi marcher dans le jeu de rôle. Je pense que c'est les ventes de jeux de rôle, c'est vraiment sur du long terme. Donc voilà, on n'est pas passé par Kickstarter, donc on n'a pas eu une visibilité de fou. On fait ce qu'on peut. Les boutiques sont super contentes qu'on passe par eux et pas par Kickstarter, donc c'est bien, mais ça aide pas quoi. Bon. On fait pas assez de ventes. On a plein de projets, ils ont plein de des scénarios, une campagne, une saison 2, ils ont plein de choses. Nous, on est en ce moment un peu en train de les freiner, malheureusement. Donc, on est en train de chercher des solutions avec eux pour pouvoir continuer le projet qu'on adore. Donc,
Pour pouvoir sortir des suppléments, des scénarios.
Des scénarios, des suppléments, ils ont déjà tout décrit. Ils sortent beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Il y en a qui sont intéressés. Il y a un kit d'initiation avec des scénars. Il y a du contenu. Il y a plein, plein de choses. Enfin, c'est vraiment un jeu aussi qu'on peut découvrir tout seul. Ce qui forcément ralentit aussi un peu les choses, parce que le temps que tu prennes ton kit d'initiation, que tu y joues, t'en as pour 2-3 mois, si ça te pète, tu réfléchis, tu réunis tes joueurs, t'achètes le jeu, enfin, voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, faut de la respiration, donc faut pas non plus.
C'est pas le même rythme, on est d'accord.
Faut pas qu'il s'oublie, faut pas aller trop vite, il faut le faire vivre, enfin voilà, on est sur plein de choses un peu compliquées, et puis que.
Voilà. Et du coup, alors, tu me rappelles le nom des auteurs, je sais pas si tu as cité leur prénom, mais. Non.
Alors, il y en a 6.
Alors, il y en a 6.
Ouais, ils sont beaucoup aussi. On va commencer par Eleanor Durafour, parce que c'est la seule fille. Ensuite, il y a Sébastien Durafour, qui est le créateur original. C'est vraiment lui qui a créé le jeu, qui a créé tout l'univers. L'équipe d'après, c'est vraiment tourné autour de son idée pour le faire maintenant. Et ils sont tous auteurs, donc ça se passe vraiment très bien. Donc c'est cool. Michael Carré, parce que si je ne dis pas tout de suite, je vais l'oublier. Thomas Bolusset, Romain Ledoux et Philippe Christin.
Bien. Bravo.
Merci.
Bravo. Ça mérite au moins ça.
Ouais. Je suis pas sûr.
Très bien.
Je suis très très fier de moi.
Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter?
On présente aussi Dunaya, un jeu expert et qui marche bien, un jeu de gestion de dés. Puis on est tout content de le montrer aussi pour la première fois. C'est un jeu où on a beaucoup de travail sur l'ergo à faire. Donc,
c'est un proto là.
C'est un proto. Si vous venez, il y a une bonne gueule.
On en reparlera en temps utile.
Ouais, exactement. Okay, je pense qu'on aura le temps.
Très bien. Bah, écoute,
merci
beaucoup, Simon.
Mais de rien.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.